Tournepage avec Annie Loire
et Elisabeth Couget.
Oui,
sur Radio
Grand Ciel.
Bien entendu.
Bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui n'est pas très drôle, mais que vous connaissez par un film, Les Cristeros, qui a fait beaucoup de bruit, heureusement, parce qu'on n'en a pas parlé pendant des décennies.
Oui, parce que qui sait en Europe que des milliers de Mexicains sont morts entre 1926 et 1937 pour avoir défendu le droit de pratiquer leur religion. C'était un combat pour la liberté.
Oui, qui sait cela? C'est une histoire qui a été interdite pendant près de 3 générations, on peut le dire.
Pourquoi? On ne sait pas finalement.
Pourquoi? Parce que malheureusement, le Vatican, les évêques de l'époque, c'est-à-dire 1926-1929, ça a continué un petit peu plus tard, mais ont été pris au piège, on peut dire, par un gouvernement terriblement anti-chrétien, mais qui était athée déjà depuis très longtemps, n'est-ce pas?
Oui, je crois que c'était pas nouveau. On peut dire que finalement, le gouvernement de 1924, 10 ans après la révolte des Mexicains avec Zapata et Pancho Villa, dont vous avez certainement plus entendu parler que des Cristeros, donc ce gouvernement a voulu appliquer à partir de 1924 l'arrivée au pouvoir la constitution de 1917 dans laquelle il était décrété que l'Église est privée de personnalité juridique et que la constitution prévoyait la nationalisation des lieux de culte, la prohibition des vœux monastiques, l'interdiction du droit de vote pour les membres du clergé, etc., etc., et l'interdiction du pratique de la religion.
C'est ça, les cathédrales et les églises fermées, même dans les petits villages, les prêtres non habilités à porter des soutanes, même à se manifester en tant que prêtres, enfin ça a été vraiment... Et on n'en a pas beaucoup parlé, c'est
non,
vrai,
alors,
pas
le,
du tout.
Le pape Pie XI à l'époque, en 1926, voulait être plutôt pacifique au début, essayer d'organiser une espèce de révolte, mais de manifestation calme, tranquille.
C'est-à-dire qu'il avait proclamé le Christ roi des nations. Oui. N'est-ce pas? Ça a été un dogme, je suppose, en tout cas une proclamation, le Christ, roi des nations. Et le Mexique s'est enflammé pour cela, le Mexique populaire, on peut dire.
Oui, absolument.
Le Mexique des provinces.
Les campesinos.
Les campesinos, c'est ça, exactement.
Oui. En fait, les mêmes qui ont lutté avec Sancho Panza. Et ils ont lutté pour la liberté de Mexique, et là, ils sont mis...
C'est ça. Pas forcément toujours pour des questions religieuses, mais parce qu'ils ont la carabine et le pistolet un peu facile. Les Mexicains, tout le monde le sait. Mais tout de même, ça a été une révolte vraiment populaire et extraordinaire. Alors, la nation entière se mobilise, on le sait, sous les drapeaux de Dieu, qui est fait homme.
Oui.
Elle marche vers les mitrailleuses et les canons de l'Antéchrist. C'est un petit peu comme ça qu'en parle ce fameux livre
donné l'idée de parler aujourd'hui de ça.
Qui nous a alerté. En plus, le film est venu un petit peu après, mais nous étions déjà un petit peu alertés par ça. Le livre s'appelle La véritable histoire des Cristeros, de Hugues Kerali. Et voilà, pendant que nous sommes en train de parler de livres, il y a celui de Jean Meyer, qui était de 1975, qui s'appelait La Cristiade, puisque cet événement s'est appelé La Cristiade.
C'est comme ça qu'on l'avait appelé.
Voilà, Cristiada.
Voilà.
Et il a été réédité en 2014, en s'appelant La Cristiada, la guerre du peuple mexicain pour la liberté religieuse.
Exactement.
Voilà.
Alors en fait, cette guerre de ces paysans mexicains, finalement, a démarré parce qu'on leur a interdit tout auquel ils tenaient.
Oui, et puis alors les fédéraux, comme on les appelait, arboraient un drapeau noir, souvent au tibia qui était entrecroisé, et ils criaient « Viva el demonio ».
El demonio, exactement.
Oui, c'était quand même très énorme, n'est-ce pas?
Oui, c'était très très
alors,
fort.
Alors, cette tradition anti-athée et anti-chrétienne est très ancienne au Mexique. Alors, ça a mis, je crois qu'il faut le dire tout de suite, ça a mis des années. C'est pas seulement 26-29.
Non.
Ça a été réglé en 1929 par les fameuses arreglos, des arrangements.
Des arrangements, oui.
Voilà, entre les évêques, le Vatican ne sachant plus très bien quoi faire. L'Amérique est intervenue, l'Amérique du Nord est intervenue. Enfin, il s'est passé vraiment des choses effrayantes dont on a très peu parlé à cause de ça.
Oui, exactement. Je pense que ça n'arrangeait personne, mais je voulais dire encore que finalement, ces paysans n'ont pas pris les armes immédiatement. Parce qu'au début, quand le pape leur a suggéré de résister calmement, ils ont supprimé, d'abord les religieux ont supprimé les messes, tout simplement. Ils ont dit on va suspendre jusqu'au moment où cette loi anti-religieuse sera en vigueur.
Voilà.
Et donc, ils ont tout essayé, ils occupaient des églises, ils manifestaient dans les rues, ils boycottaient économiquement le pays, et voilà, et donc, ils ont même remis une pétition. Alors, je voulais juste dire qu'il y avait 2 millions de signatures dans un pays où il y avait 15 millions d'habitants et beaucoup d'illettrés.
Il faut dire une chose aussi, quand même, qui explique un peu tout cela, c'est que l'Église, au Mexique, possédait à peu près... Je ne peux pas dire la proportion parce que je ne la sais plus par cœur, mais il possédait énormément de biens.
Absolument.
Et que ça gênait beaucoup.
Oui, forcément, ça ne plaisait pas beaucoup.
Ça plaisait à personne.
Je crois
que l'enseignement était quand même un petit peu fanatisé dans la mesure où l'Église voulait mettre sa poigne, sa marque sur tout l'enseignement. Voilà.
Bon, je crois qu'on a bien lancé le sujet. On va peut-être vous faire écouter un peu de musique. On n'a pas trouvé de musique mexicaine, mais on vous propose Misa Criolla.
Que vous avez chanté.
Que nous avons chanté.
À Chartres.
Vous venez d'entendre le grand chœur du conservatoire de Chartres chantant magnifiquement l'été dernier dans l'église
Saint-Aignan.
Saint-Aignan, exactement.
La Missa Criolla.
Missa Criolla, voilà, exactement.
Bon. Oui, nous parlions de ce grand phénomène événementiel dont on n'a pas beaucoup parlé au Mexique, dans le monde même.
Et dans le monde.
Le phénomène des cristeros. Que vous connaissez un petit peu maintenant grâce au film qui est sorti, mais finalement, on n'en a vraiment pas du tout entendu parler, n'est-ce pas ?
Absolument. Et je pense qu'on peut peut-être remercier Jean-Paul II et Benoît XVI qui ont un peu relevé ce voile qui cachait tout ça, puisqu'il faut le savoir que Jean-Paul II, à peine arrivé au Vatican, son premier voyage, il l'a accompli au Mexique. Il est allé à Guadalupe, où les quelques survivants des cristeros sont venus l'acclamer, criant « Viva Cristo Rey !»
Oui, voilà, ça a été vraiment très significatif que le pape Jean-Paul II commence sa tournée mondiale par le Mexique. Alors, le nombre de victimes, Elisabeth, c'était
alors, il y en avait beaucoup. C'est une guerre épouvantable qui a fait 250 000 victimes, dont 100 000 combattants. On peut dire qu'il y a eu plus gouvernementaux que de cristeros qui seront morts. Donc, 60 000 gouvernementaux, 40 000 cristeros, mais surtout, il y avait 150 000 civils, dont énormément d'enfants.
Et de femmes.
Et de femmes, bien sûr.
Oui, bien sûr. Donc, et parmi les prêtres, je crois qu'il en est... beaucoup ont été tués, évidemment.
Alors, plus d'une trentaine. Hein.
Plus d'une trentaine, oh, bien plus. Bien plus.
Oui.
Et finalement, c'est l'occasion de parler de ce livre de Graham Greene, La puissance et la gloire, qui est paru en Angleterre en 1944, mais qui a été traduit et préfacé par François Mauriac en 1948, et qui raconte, ce n'est pas l'histoire des Christ et Rose, mais ça se passe à ce moment-là, c'est l'histoire d'un prêtre, un des derniers prêtres qui reste, qui voudrait se sauver, qui est malheureusement dans un état terrible d'alcoolisme, d'impureté, etc. Mais ce qu'il raconte, dès qu'on a besoin de lui, il revient, il sort de la clandestinité et il aide les gens à vivre parce qu'il est malgré tout prêtre.
C'est un prêtre avant toute chose.
C'est ça, c'est vraiment l'histoire du péché. Et la grâce. Essayez de relire ce livre, La puissance et la gloire de Graham Greene.
Je voulais juste citer dans ce livre La véritable histoire des Christeros, écrit par Hugh Kerali, quand il parle des martyrs. Alors, je vais vous citer que j'ai une phrase magnifique, je trouve. Les martyrs et les saints ne sortent pas des nuages, ils sont de chair et d'os comme nous. Tentés par le doute, la tristesse, la peur comme nous. Et ce n'est pas dans les livres, les discours ou les rêves qui se sont montrés plus courageux que nous.
Voilà. Sommes-nous au bout déjà de notre émission?
Non, pas encore. On a encore quelques minutes.
Je voudrais reparler un petit peu de cette question épineuse du soutien de l'épiscopat et du Vatican.
Ah.
C'est vraiment quelque chose qui est controversé encore, parce que la papauté ne savait pas comment réagir à cela. L'épiscopat mexicain n'a jamais soutenu la rébellion, il faut le dire. Mais une petite minorité d'évêques mexicains ont quand même reconnu la légitimité de la cause des Christeros. Par contre, l'immense majorité des 38 évêques mexicains, j'ai le regret de dire qu'ils ont refusé la résistance armée. Donc le peuple s'est révolté contre ces évêques.
Contre ceux-là aussi, bien sûr. Parce qu'en fait, leur guerre a été finalement traitée en dehors d'eux, par les Américains, par le pape, par l'épiscopat. Et en fait, pour les États-Unis, il était primordial d'avoir une Mexique pacifiée où les champs pétrolifères sont accessibles pour eux. Voilà, je crois qu'il faut pas oublier ça.
Les évêques parlaient aussi du respect dû aux autorités. Ça, c'était très important.
Absolument.
Évidemment. Seuls 3 évêques ont appelé à résister, mais jamais par les armes. Donc ils ont désobéi, évidemment. Bon, ils se sont fait assassiner les uns après les autres, évidemment.
Je pense qu'il y a eu des enfants. Dans ce livre, on parle d'un petit garçon, José Sanchez del Rio, qui est vraiment à 13 ans s'est engagé et il a donné sa vie pour sa foi. Et voilà, laissant une lettre très émouvante que je ne vais pas vous lire parce que je vais pleurer. Je pense malheureusement on commence à approcher vers la
fin. Je peux dire qu'une fois les arreglos décidés, malheureusement beaucoup de gens ont été encore assassinés par la suite,
ça
à peu près 5000 personnes.
Exactement.
À bientôt, chers auditeurs.
À bientôt, n'oubliez pas les Cristeros si vous allez au Mexique.
Et merci à Simon pour son aide.